Le journal Pelekipe la Mondo.
Une incompréhension entre militaires à l'origine d'un affrontement de deux bataillons des FARDC hier à Saké dans le Nord Kivu. Bilan, 3 morts et 14 blessés côté militaire et 18 civils blessés. Ces incidents n'ont rien à voir avec les élections et aucun politicien n'en est l'auteur, affirme de son côté Azarias Rouberoy. Un apport technique détail qui pourrait sans doute accélérer l'opération de compilation des résultats électoraux à Kisangani. Un nouveau logiciel est mis en service au bureau de la représentation professionnelle de la CEI. Il permettra surtout de centraliser les données recueillies dans les différents bureaux de vote. Dans la province de l'Équateur, un convoi de pirogues motorisées dénommé Mima fait naufrage à l'embouchure de la rivière Ikelemba. Sur 35 personnes se trouvant à bord, 3 sont portées disparues. Mesdames et messieurs, bonjour. Le calme est revenu à Saké, localité située à 27 km au sud de Goma, dans le Nord Kivu. Hier, cette localité était le théâtre d'un affrontement qui a mis aux prises des militaires des deux bataillons des FARDC. Bilan, 3 tués et 14 blessés dans les rangs des militaires et 18 blessés du côté des civils. À l'origine de ces incidents, une incompréhension entre deux militaires de deux différents bataillons de l'armée régulière congolaise. À l'occurrence, des militaires brassés du 94e bataillon de la 9e brigade et ceux non brassés du 834e bataillon des FARDC. De Goma, les points avec Moïse Mutunga.
Les tirs qui ont commencé vers 12 heures et qui ont duré environ 4 heures, selon la 8e région militaire, ont fait 3 morts et 14 blessés du côté militaire et 18 civils blessés. Selon la MONUC, dont les casques bleus indiens se trouvent sur place, une incompréhension entre deux militaires de ces bataillons dans les marchés de Saké serait à la base de l'affrontement. Une information confirmée également par la population du groupement des Kamoronza à Saké dans le territoire de Massissi. Après ces affrontements, le calme est revenu dans la cité. Les habitants de la localité de Saké déplorent la situation. Témoignage du chef du groupement des Kamoronza en territoire de Massissi, Mwami Baouma Bitibou.
Il y a, semble-t-il, un militaire du bataillon des Brassés qui a été pris et frappé par les non-brassés. Les militaires ne se sont pas entendus et ça a créé un affrontement entre les deux groupes maintenant. Alors, il y a eu une attaque vraiment nourrie. Apparemment, ils ne s'entendent pas. Il faudrait que l'autorité puisse de laisser un groupe ici ou bien de les enlever tous. On nous amène de nouveaux militaires.
Le commandant de la 8e région militaire, général Gabriel Amissi, et son homologue de la brigade indienne de la MONUC se sont rendus à Saké pour amener les calmes. Sur place, le commandant de la 8e région militaire a décidé de remplacer les éléments de la 9e brigade brassée par ceux de la 11e brigade intégrée. Selon le général Amissi, la 9e brigade sera déployée dans le territoire de Rutshuru. Cependant, il appelle la population de Saké qui avait déjà fui à retourner dans leur maison. De Goma, Moïse Mutunga Lukube, Radio Okapi.
Réagissant au cours d'un point de presse animé hier en sa résidence, le vice-président Azarias Rouberoy a indiqué que les incidents de Saké ne sont pas l'œuvre d'un politicien quelconque et n'ont aucun lien avec les élections. Par conséquent, il invite la population congolaise en général et celle de l'Est du pays particulièrement à garder son calme. Maître Rouberoy fait sa lecture des faits et calme les esprits. Il est au micro de Karine Kakasi.
Hier, un militaire appartenant à un bataillon d'une brigade non intégrée qui allait faire des provisions a été appréhendé par des militaires appartenant à la 9e brigade intégrée. Lorsque ce militaire redoutait le comportement que ses collègues allaient lui faire subir, il s'est échappé et en s'échappant, ceux qui l'avaient pris ont dû tirer sur lui. Il a été grièvement blessé. Il ne s'est donc pas agi d'une rébellion, d'une guerre, d'une situation liée directement aux élections. Il s'est agi plutôt d'une situation qui aurait dû arriver, même en dehors du contexte électoral. Je profite donc de l'occasion pour que la population congolaise en général, celle de l'Est en particulier, soit rassuré que la situation est sous contrôle et qu'il n'y a pas lieu d'extrapoler ces éléments pour entamer la sérénité dont nous avons besoin en attendant les résultats des élections par la commission électorale indépendante.
Comment restaurer la confiance des citoyens vis-à-vis de la Cour suprême de justice? Mieux, comment balayer de la tête de la majorité des Congolais les préjugés qu'ils ont sur la plus haute instance judiciaire du pays? C'est en mettant à leur disposition une information de première main sur le travail qu'a bas la CIJ et son mode de fonctionnement. Selon le premier président de la Cour, Benoît Luamba, la journée porte ouverte organisée hier à l'intention des journalistes, des étudiants en droit, des observateurs nationaux et internationaux des élections à RDC répondait justement à cette préoccupation. C'était aussi une manière pour cette institution judiciaire de dire aux uns et aux autres comment la CIJ se prépare à traiter les dossiers relatifs aux contentieux électoraux qui pourront lui être soumis. Le greffier en chef Albert Tamba nous donne quelques précisions là-dessus. Il est au micro des MNCA.
Une série des instructions a été prise afin de faciliter le rôle que le greffier aura à jouer. Nous avons pris l'instruction relative à la réception des archives et des recours lors des élections présidentielles et législatives. C'est ainsi que nous avons mis en place un code pour identifier chaque centre de vote. Vu le nombre de centres créés par la CI, nous avons proposé 5 groupes et chaque groupe devra s'occuper d'un nombre déterminé de centres de vote. Nous avons pris une instruction relative au contentieux à l'élection présidentielle. Nous avons précisé d'une part que la procédure est gratuite. Compte tenu du délai de 7 jours accordé à la Cour pour se prononcer, la notification des dates d'audience au requérant se fera sans respect des délais de saisie. Indépendamment des instructions, nous avons prêté les formulaires que le greffier va devoir utiliser, soit pour la saisine de la Cour, soit lorsqu'un arrêt est rendu pour notifier à la CIR. Néanmoins, nous déplorons le fait que jusqu'à ces jours, les locaux ou conteneurs que nous avons réclamés ne sont toujours pas fournis.
Albert Tamba, le greffier en chef de la Cour suprême de justice. Puisque nous parlons contentieux électoral, rendons-nous à présent dans les Maniema au cours d'une réunion de sécurité tenue à Punia. Le gouverneur de cette province, qui est en même temps candidat député, a dénoncé les irrégularités du scrutin de dimanche dernier. Pour Colosso Soumaïli, il y a eu arrangement en faveur des uns et en défaveur des autres. Il faut dire que la réaction du gouverneur candidat député n'a pas du tout plu à la CEI, qui n'a pas manqué de rappeler la procédure à suivre selon la loi en la matière. Explication, Gabriel Wamenia.
C'est au cours d'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité tenue en présence de la MONUC que le gouverneur Colosso Soumaïli a parlé en ces termes. Je cite, « Les élections ne se sont pas bien passées à Punia. Il y a eu un arrangement tribal. » Fin de citation. Colosso Soumaïli, qui a parlé comme gouverneur, est parti selon lui de certaines irrégularités observées dans quelques bureaux de vote. C'est par exemple selon lui, un candidat dont il n'a pas cité les noms, a été autorisé par le président du bureau de vote de Bokaya de filmer les opérations des scrutins. Un autre fait fustigé par le gouverneur Colosso, c'est la partialité du responsable de la CI Punia. Colosso Soumaïli l'accuse d'avoir bâti campagne en faveur de son père paternel. La CI qui est pointée du doigt dit que la loi est claire en cette matière. Pour François Boulungu, aucun candidat n'est autorisé de soulever les irrégularités observées dans un bureau de vote. Il y a des procédures à suivre, conclut le président de la CI Punia. Signalons qu'à l'exception du gouverneur Colosso Soumaïli, les autorités de Punia présentes dans la réunion ont toutes confirmé le bon déroulement des scrutins. Depuis la cité de Punia, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
À Kisangani, un nouveau logiciel pour la compilation des résultats du scrutin a été mis en service depuis hier au bureau de la représentation provinciale de la CI. Ce logiciel permet de centraliser les données recueillies dans les différents bureaux de vote. La presse, les observateurs nationaux et internationaux ainsi que les témoins des partis politiques ont assisté au démarrage officiel des opérations de compilation. Les explications avec Giacomo Concolé.
14h30 local, la salle de compilation des résultats est bondée de monde. Journalistes, observateurs tant nationaux qu'internationaux, témoins des partis politiques sont présents. Ils ont été conviés à assister au démarrage des opérations de mise en commun des données récoltées dans les différents bureaux de vote. En face d'eux, une longue table sur laquelle sont posés 4 ordinateurs dotés d'un nouveau logiciel. L'occasion est donnée au coordonnateur provincial de la CEI, professeur Jean Otemikongo Mandefou, de brosser l'importance de ce système ainsi que la méthodologie de travail au centre de compilation. Pour rassurer ses interlocuteurs de la virginité des machines, tout y a été nettoyé devant leurs yeux interrogateurs. L'impression du report qui s'en est suivi automatiquement en fait foi. Immédiatement après, il a été procédé à la démonstration. Chacun des 4 opérateurs a saisi dans son ordi des données issues d'un centre de vote quelconque. La comparaison établie entre les résultats de cette machine et ceux inscrits manuellement sur PV des bureaux de vote révèle la conformité des résultats, ce qui témoigne de la fiabilité de ces machines, estime un témoin présent dans la salle, signalant que le bureau de compilation des résultats a été ouvert le 1er août, mais la compilation proprement dite n'avait pas encore commencé. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Naufrage hier en fin d'après-midi à l'embouchure de la rivière Ikelemba, à 35 km en amont de Mbandaka sur le fleuve Congo. Un convoi de pirogues motorisées dénommé Mima qui se rendait à Bassankoussou a chaviré après avoir heurté un arbre. Sur les 35 personnes se trouvant à bord, 3 sont portées disparues. L'armateur de ce convoi, Kabamba Bokele, qui s'est trouvé lui-même à bord, nous relate les faits au micro de Dominique Wolombi.
Les allagues vers 16h moins.
C'était vers 16h. Nous venions de dépasser l'embouchure de la rivière Ikelemba. Les matelots qui se trouvaient devant ont vu un arbre. Ils ont commencé à avertir les conducteurs en disant « Un arbre est devant nous ». Un autre conducteur qui était à ses côtés lui a conseillé de gagner le fleuve pour éviter cet arbre. Il a fait la sourde oreille. Nous avons heurté l'arbre. L'étendeur qui assemblait les deux pirogues s'est coupé. La partie arrière du convoi a pris l'eau. Les deux pirogues ont chaviré. Jusqu'à présent, presque tous les passagers qui étaient repris sur le manifeste ont eu la vie sauve, sauf ma fille, une femme et son enfant.
Retenez que le naufrage a plutôt eu lieu le vendredi en fin d'après-midi, signalant également que les passagers ont perdu tous leurs biens dans cet accident. Une équipe d'enquête mixte comprenant notamment les commissaires fluviaux de Mbandaka et des éléments de la 4e région navale a été dépêchée sur le lieu de l'accident depuis hier matin. Dans le nord Katanga, à Kalemi, 3 jours après l'explosion d'une grenade qui a tué un enfant et blessé grièvement 5 autres personnes au quartier Kankolombondo, l'heure est à la sensibilisation sur les dangers des mines. L'ONG danoise Dan Church Aid et la section protection de l'enfant de la MONUC ont eu un échange à ce sujet avec les habitants de ces quartiers situés à la périphérie sud de la ville. Reportage Expedi Mamba Mubi.
À Kamkolobondo, c'est la consternation 4 jours après le drame. La grenade qui a tué le 1er août dernier, le petit Léon, et blessé grièvement 5 autres personnes, était de forte puissance. On a retrouvé des éclats dans un rayon de 50 mètres. Selon plusieurs témoignages, l'enfant manipulait l'engin au moment de l'accident. Après le passage des belligérants dans ce quartier en 1998, Kamkolobondo est suspecté d'abriter des engins non explosés. D'où la sensibilisation entreprise par l'ONG Dantchotchède et la section protection de l'enfant de la MONUC. Augustin Baziké de l'ONG danoise s'adresse ici à une centaine de personnes. Si vous voyez un objet semblable à une boîte, à une bouteille, à un bic, à une casserole, à une assiette, ne touchez pas. Parce que, justement, les roquettes, les mines, les grenades, les bombes ressemblent à des assiettes, à des casseroles, à des bouteilles, à des boîtes, à la petite balle pour les enfants. Eh bien, ne touchez pas. Parmi les personnes venues écouter la sensibilisation, le père du petit Léon se dit déçu. Trop tard. Ils viennent nous sensibiliser trop tard. Ils savaient que les militaires ont abandonné des mines un peu partout. La sensibilisation aurait dû commencer bien avant, nous prévenir de ne pas toucher à ceci ou cela. Dommage, ils sont venus après l'accident. Les sensibilisateurs, eux, affirment être déjà passés une fois à Kamkolobondo. Toutefois, à l'époque, beaucoup de déplacés n'étaient pas encore rentrés chez eux. Kalemi, Expedi Mamba Mubi, Radio Okapi.
Retournons dans la province orientale. Cette fois, on ne va pas parler d'élection, mais plutôt de ces diminutions sensibles des cas des personnes souffrant de la maladie du sommeil. Cela se passe à Isangi, territoire situé à 125 km à l'ouest de Kisangani. Selon les médecins traitants de l'ONG internationale MSF Belgique à Isangi, le taux de prévalence est passé de 3% l'année dernière à 1% cette année. Ces derniers attribuent cette amélioration à la nouvelle politique de MSF Belgique qui bénéficie d'un appui du Programme alimentaire mondial sur la prise en charge des malades. Les détails avec Anselme Massoua.
Depuis le début de cette année, le MSF Belgique applique une politique de proximité à deux objectifs. Le traitement des malades du premier stade dans les aires de santé et de ceux du deuxième stade à l'hôpital général de référence d'Isangi. Pour les malades du premier stade, ceux qui ne sont qu'à la phase des ganglions au niveau du cou, le MSF approvisionne en médicaments les centres de santé proches des malades, et ceci après dépistage par ses équipes mobiles. En plus, le MSF a presque doublé le piège à traiter dans les 22 aires de santé de la zone de santé d'Isangi, a déclaré Idrissa Djakité, médecin traitant du MSF Isangi. Les malades travailleurs du deuxième stade somnolents et présentant des troubles de comportement sont ramenés à l'hôpital général d'Isangui. Là, ils bénéficient d'une surveillance active et permanente, poursuit Idrissa. Actuellement, l'hôpital général d'Isangui ne compte qu'un seul malade sous traitement. Les 8 autres ayant terminé leurs soins sont en observation. La réussite de cette nouvelle politique, reconnaît Idrissa, est aussi sujet d'un appui considérable du Programme alimentaire mondial qui apporte chaque mois des vivres aux malades. Isangui, Anselme Massoua, Radio Okapi.
Il est très exactement 8h15 à Kinshasa, une heure de plus dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez les retrouver sur www.radiokapi.net. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Okapi.